La parole est à la salle. Les questions sont les bienvenues. Monsieur, vous avez la parole. Alain Lipietz, monsieur. Et monsieur, allons-y. Monsieur, vous, présentez-vous et présentez votre question.
Yes, thank you very much. My name is Ernest Dulce, working for the Green Group on peace and disarmament. Yes, on disarmament. Angelika Beer, in her introduction, explained that in the new challenge, such a security challenge, we need to focus on disarmament. Now, this was not repeated by, I think, one of the speakers. Nevertheless, I'm a little bit worried about the fact that there is no focus on disarmament. I listened to what the NATO said in Bucharest. I also saw a very recent report, I think even from the GRIP, explaining that military expenditure is going up steadily. I saw another quite recent report that once again the European Union seems to be the most, the biggest arms exporter of this world. I have an impression, if we talk about measures to take, we should not also only talk about mitigation, diplomacy, but we should also once again talk about the need for disarmament, because if there is no disarmament, then there will be new arms races and all the tools will be there to organize the violent competition between the states in the new vulnerable environment. So I would like to have a question, where is this focus on disarmament in the papers as they are presented by the Commission, by the Council, perhaps also the International Crisis Group, where is it? And perhaps also in the NATO, because I don't see it there at all.
Je dois annoncer que Madame Helga Schmidt est obligée pour des raisons professionnel à nous quitter très vite. Si il y a trois questions rapides, Madame pourra peut-être essayer de répondre et puis vous aurez de nouveau la liberté, Madame. Hein? Alors encore deux questions. Deux questions. Il y avait quelqu'un ici. Alain.
Et je suis désolé. Enfin, si Madame Helga Schmidt doit partir exactement à la demi, peut-être qu'il faudra qu'elle réponde tout de suite. Sinon, c'est à elle que je voulais poser la question, justement. D'abord, j'ai beaucoup apprécié votre intervention et j'avais beaucoup apprécié le rapport Solana. Mais les objections de M. Seminator sont vraies. C'est-à-dire, tout le monde ici, tous les représentants de l'Union, ont communié dans la position de l'Union, qui est une position kantienne, opposant la sécurité collective à la guerre. Et c'est vrai que c'est ce qui caractérise l'Union européenne. Mais comme dit M. Seminatore, nous ne sommes pas seuls au monde. Et jusqu'à présent, la position kantienne de l'Union européenne, face notamment aux crises de l'environnement, ne sont pas partagées par tout le monde. Alors je voulais vous poser une question, Madame Schmidt. J'ai été le rapporteur sur l'intégration de l'aviation dans le système des droits d'émission de gaz à effet de serre. Et j'ai à ce titre reçu une lettre envoyée par l'ambassadeur des États-Unis et l'ambassadeur de Chine à tous les pays du Conseil. En gros, le projet présenté par la Commission et que je soutenais et que le Parlement a soutenu était de dire, nous allons intégrer l'aviation dans le système des quotas d'effet de serre, et évidemment au nom de deux règles de l'OMC, à la fois celle qui dit qu'on doit traiter tous les pays, tous les produits comme des produits intérieurs, et que deuxièmement, on a droit à des border tax adjustment pour défendre sa politique environnementale, les compagnies aériennes des pays tiers, donc chinoises ou américaines, devraient acheter des quotas européens pour se poser en Europe. La lettre des ambassadeurs chinois et européens était à peu près le genre de lettre que reçoivent l'ambassadeur du Nicaragua, enfin, le président du Nicaragua ou du Costa Rica tous les matins de l'ambassade des États-Unis. C'était vraiment un ton menaçant, agressif, irrespectueux de l'Europe, etc. Je pense que ça a joué un rôle considérable dans le fait que le Parlement a choisi de suivre la Commission. Quelle a été la réponse du Conseil à cette lettre provocatrice et menaçante de la Chine et des États-Unis?
Madame, vous pouvez répondre à la troisième question s'il y a encore du temps. À vous la parole.
Thank you very much. Disarmament. Disarmament, non-proliferation and disarmament is key. I have not been referring to in my presentation, because this was about the report on climate change, but I can tell you that one of the biggest challenges we are facing right now is the update of the security strategy of 2003, and here disarmament, non-proliferation, disarmament is identified as one of the key challenges. The report is only due for the is only due by the end of the year, but I can already say now, and it's not a secret, that this is and will remain one of the key challenges. And we have done actually quite a lot. We have come up with a strategy. We have come up with, I don't want to go into detail now, with very specific proposals in terms of international cooperation, and we will focus in the report on the implementation. We will focus very much on disarmament, on proliferation, coming up also with new proposals to carry especially international cooperation further. So the fact that I did not refer to it was because I was specifically asked to talk about Javier Solana and the Commission's report, but this does not, of course, mean that this is not one of the key priorities we are dealing with. The question, the answer to your question, I cannot give. To be honest, I don't know the letter. This is not within my competence. I can offer you to find out. Sorry.
Une question, madame?
Une question, la troisième question. Monsieur.
Oui, bonjour. On a parlé des équilibres et que les facteurs environnementaux pouvaient provoquer des conflits. Et c'est vrai qu'actuellement, les facteurs environnementaux provoquent de la famine dans le monde. On commence à avoir des émeutes sociales dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Mais il y a aussi une question qui est assez préoccupante, c'est la politique de l'Union européenne en matière de crédit de carbone. Il y a quelque chose d'assez hypocrite dans le sens que, d'un côté, on dit qu'on veut réduire les émissions de CO2, et d'un autre côté, on propose de réduire de 130 mégatonnes par an, et en même temps, on importe, par le commerce des crédits du carbone, en Europe, 280 mégatonnes par an. Ce qui veut dire qu'on ne réduit rien, et au contraire, c'est une nouvelle forme de colonisation, puisqu'on exploite à nouveau le potentiel des pays du Sud au profit de la richesse du Nord. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument dénoncer. Je pense que dans l'Union européenne, il serait temps qu'on fasse les réductions de carbone chez nous, et pas dans les pays du Sud. Et je voudrais savoir quelle est un petit peu la position de l'Union européenne par rapport à ce thème. C'est vraiment très important de supprimer, de stopper toute possibilité de commerce de crédit de carbone. C'est une hypocrisie par rapport aux accords de Kyoto. La deuxième question, c'est que dans le traité de Lisbonne, on parle que la meilleure politique de défense est une politique de prévention. Quel est le point de vue de l'Union européenne par rapport à l'installation, dans ce contexte, de nouvelles bases américaines en Pologne, en Tchéquie et de l'agrandissement des bases en Italie? Je voudrais connaître votre point de vue. Merci.
Thank you very much. First of all, starting with your second question, this is something that has been discussed, as you know, within NATO, and I have just participated at a roundtable this morning where the Polish defense minister was there. The discussion is very much to bring the issue into NATO, discuss it within NATO. I'm representing here the European Union, so I could give you my personal opinion, but I can give you an EU opinion on that. This is something that has been discussed within NATO. But personally, I think the current trend to discuss it and bring it into the NATO umbrellaship is certainly a very good trend. For your first question, here again, on a personal basis, I understand what you're saying, but this was not the issue of this report, because this report was focusing on the security implications, and this was what we have tried to do, to raise awareness here and to bring that into our policy of conflict prevention, which is one of the key policies we are having. Thank you.
Merci beaucoup, madame. nous allons poursuivre, si vous le permettez, le débat sans vous. On regrette beaucoup votre départ. Rendez-vous à l'année prochaine, madame, et merci beaucoup. Vous aurez sans doute beaucoup plus de réponses à nous apporter l'année prochaine. Mais on va répondre à ce monsieur sans votre présence, si vous le permettez. Nous avons les amiraux, les généraux, et nous avons les réponses préétablies. Vous permettez ce... Mon amiral, vous pouvez... Il y a deux questions dans votre... Alors...
Bon, je suis prêt à prendre deux questions qui ont été posées par deux intervenants différents. Concernant l'installation possible, probable, de bases américaines sur le territoire d'un pays qui est un pays de l'OTAN, d'abord, en tant que membre d'un autre pays, permettez-moi de ne pas avoir d'opinion à donner à un pays ami. Je ne suis pas tchèque ou je ne suis pas polonais. Donc dans ce droit souverain-là, tant qu'il est souverain, il faut rester, il faut respecter les règles du jeu. Mais je ne vais pas esquiver le débat et je ramène votre question à ma distinction que j'ai faite sur les menaces, les risques et les risques qui peuvent être des menaces. Et si je suis bien informé, au dernier sommet de Bucarest à l'OTAN, et je suis désolé de parler d'une autre alliance dans cette maison, mais puisque vous m'y incitez, à Bucarest, on a décidé entre pays alliés de reconnaître l'existence d'une menace possible. On n'a pas mis de temps ni d'intensité sur celle-ci, et c'est pourquoi, à Bucarest, il a tout simplement été décidé d'aller prudemment de l'avant. Et donc, je ne trouve pas de contre-argument, militairement parlant, pour avoir une capacité capable, éventuellement, de contrer une menace avérée. Bien sûr, tout cela doit faire et reste du domaine du politique, et la décision a été prise par des chefs d'État dûment mandatés à être là ce jour-là. Donc je pense qu'il faut voir là-dedans une logique qui est la logique des capacités en vue de contrer des menaces. Tout notre débat aujourd'hui, c'était plutôt les risques et les risques environnementaux. Et ça me permet d'arriver vers la deuxième question sur le désarmement. Bien sûr, comme a dit aussi Madame qui vient de nous quitter, ce débat n'était pas soit dans mon épure, mais je ne veux pas également l'éviter. Mon pays, dans ses objectifs de politique de défense, veut assurer la sécurité et la stabilité en agissant politiquement sur deux axes. C'est la remédiation des différences et des injustices et la réduction des armements. Maintenant, si on veut discuter chiffres, si on veut discuter volume, là aussi, il y a lieu d'avoir une base de données assez cohérente avec la réalité. C'est vrai que les États-Unis, mais là, il y a une raison objective, le budget est gonflé, pas tellement en matériel, je crois qu'il y a lieu de bien étudier la découpe du budget, mais le budget est grévé par des frais de fonctionnement énormes, que l'on peut apprécier ou pas apprécier, c'est de nouveau pas de mon propos, mais le gros volume des coûts, ce sont des coûts opératoires. Et au cas où, ce sont des débats qui ont lieu aujourd'hui au Congrès, au cas où les Américains se retireraient de l'un ou l'autre des grands théâtres sur lesquels ils dépensent énormément d'argent, ils pourraient